Chapitre 7. Sous la glace. Les Outriliens pratiquent depuis toujours le pillage. Au cours des années qui précédèrent la guerre des pirates rouges, des incidents s'étaient produits qui ne semblaient pas sortir de l'ordinaire. Ça et là, un navire sous les ordres du Kaempra d'un clan portait une attaque rapide et repartait avec du bétail, quelques quintaux de céréales et parfois des prisonniers. Ces incursions touchaient surtout Béarn, qui prenait apparemment autant de plaisir à ses heurts que Orphon à ses querelles de frontières avec Calcède, et ne se plaignait guère d'avoir à les supporter. Mais avec l'apparition des navires rouges de Kébal Pincru, les règles des combats changèrent. Les attaquants se présentèrent en flottille, et leurs équipages manifestèrent plus d'intérêt pour le viol et la destruction que pour l'acquisition de butin. Ils brûlaient ou polluaient ce qu'ils ne pouvaient emporter, massacraient les troupeaux et incendiaient les champs et les silos. Ils tuaient même ceux qui ne tentaient pas de leur résister. Une volonté nouvelle et mauvaise transparaissait dans ces attaques, qui se délectaient non seulement du vol, mais aussi du saccage et du meurtre. À cette époque, nous ignorions tout de la femme pâle et de son influence sur Pincru. Histoire de la guerre des pirates rouges, du scribe Gérepu. Au matin, revenus au bord de notre excavation, Crible et moi poussâmes à l'unisson un gémissement de découragement. Puis, nous entreprîmes d'évacuer la neige qui, soufflée par le vent, l'avait comblée à demi. Poudreuse et sans consistance, elle nous imposa des efforts plus agaçants que fatigants. Nous avions l'impression de pelleter de la plume, et la moitié de ce que nous rejetions retombait doucement au fond du trou. Midi approchait quand nous l'eûmes entièrement déblayé, et retrouvâmes le niveau atteint la veille. Alors, pic en main, nous nous remîmes à creuser la glace, puis, à l'aide de nos pelles, à rassembler les fragments et à les projeter hors de la cavité. J'eus d'abord mal dans les bras et le dos, puis mes douleurs se calmèrent avant de renaître dans d'autres muscles. Ce soir-là, harassé, je m'enfonçai dans un sommeil trop profond pour qu'aucun rêve ou regret vînt le troubler. Le vent souffla de nouveau, comme toutes les nuits suivantes, et chaque matin, notre premier travail consista à débarrasser la fosse de la neige qu'il y avait accumulée. Pourtant, nous persistâmes à piocher, et peu à peu, la tranchée s'approfondit. Quand il devint impossible de jeter les blocs de glace à l'extérieur, nous façonnâmes une rampe à l'une de ses extrémités, puis entassâmes les remblais sur des traîneaux que deux hommes allèrent décharger plus loin. La besogne était d'une monotonie sans nom, et nous n'apercevions pas signe d'un dragon au fond de l'évidement. Puis, la perception par le vif que j'avais de lui allait non croissant, mais s'affaiblissant. Après le premier jour, de nouveaux bras vinrent s'adjoindre aux nôtres. Le prince de Voir retroussa ses manches et s'empara d'un pic, tandis qu'Imbre limitait sa contribution à la supervision du travail. Je lui trouvai une grande ressemblance avec le Marguet de Civil, qui, perché au bord de l'excavation, nous observait avec une indifférence suprême. Quand la Narchesca pénétra dans la tranchée, De Voir interrompit son labeur pour la mettre en garde contre les éclats de glace que sa pioche faisait voler et qui risquaient de la blesser. Elle lui adressa un petit sourire insolite, mi-triste, mi-coquet, et l'avertit de se méfier lui-même des fragments qu'elle pourrait faire sauter. Sur quoi, elle se mit au travail à ses côtés, en maniant son outil avec la compétence d'une vraie paysanne. Elle participait à l'épierrage des sols lorsque nous préparions les nouveaux champs au printemps, déclara Péotre. Je me tournai et le vis qui la regardait avec une expression à la fois fière et contrarié. « Allons, passez-moi votre pelle et reposez-vous un moment. » Je compris son but et lui remis docilement l'instrument. De ce moment, la Narchesca et lui œuvrèrent à nos côtés, l'oncle prenant soin de ne jamais s'éloigner de sa nièce, tandis qu'Eliania paraissait veiller à ne jamais s'écarter du prince. C'était la première fois depuis des jours qu'elle manifestait quelque attention à devoir, et il avait l'air d'y puiser un courage renouvelé. Ils conversaient à mi-voix, leurs phrases hachées par les coups de pique, et ils prenaient leur pause ensemble. Péotre ne les quittait pas des yeux, avec une expression tour à tour réprobatrice et empreinte de nostalgie. Je crois que, malgré lui, il commençait à prendre le prince en affection. Le clan de Vif, après discussion, se déclara partisan de la libération du dragon, et put ainsi prêter la main sans arrière-pensée aux travaux d'excavation. Quant à son tour, le fou appliqua sa vigueur nerveuse à creuser la glace et à la déblayer, les représentants du Hedgurd s'approchèrent avec circonspection du chantier pour contempler le spectacle, et le troisième jour, ils aidèrent à tirer de la fosse les traîneaux chargés de neige et de glace, poussés, à mon avis, autant par la curiosité de voir de leurs propres yeux le dragon prisonnier que par tout autre motif. Le cinquième matin, Imbre renvoya Crible et Est sur la plage où nous avions laissé nos réserves. Péotre, inquiet de ce trajet, les exhorta à plusieurs reprises à suivre les jalons dont nous avions piqueté notre chemin et à ne pas s'en écarter. Puis, il les regarda se mettre en route d'un air sombre et préoccupé. Ils prirent un traîneau car ils devaient rapporter des vivres, ainsi que les pelles et les pioches de secours afin de répondre à une main-d'œuvre plus forte. Imbre leur demanda aussi de se munir de toute la toile disponible, car il espérait dresser un paravent ou établir une couverture pour protéger l'excavation de la neige qui, portée par le vent, réduisait chaque nuit nos efforts de la journée. Sans doute avait-il ordre également de se charger des tonnelets restants de poudre explosive. Quand j'y songeais le soir, après le travail, je n'avais nulle envie de me frotter à cette substance. Mais j'avoue que le jour, alors que je bataillais contre la glace dure et compactée par les ans, j'aspirais parfois à en découvrir les capacités. Nous creusions toujours. Quand je m'interrompais le temps d'une pause et observais les parois de la fosse, je distinguais les couches qui marquaient les hivers successifs. Chaque année, une épaisseur de neige se déposait sur le glacier, elle-même recouverte l'année suivante d'une autre strate. L'idée m'était venue ainsi que plus nous nous enfoncions, plus nous remontions dans le temps. Et parfois, en contemplant les multiples assises, je me demandais à quelle époque celle sur laquelle je me tenais était tombée sous forme de neige. Depuis quand Glacefeu gisait-il là? Et pourquoi s'y trouvait-il? Nous nous enfoncions toujours davantage sans voir apparaître la plus petite écaille de dragon. De temps en temps, Imbre et Devoir consultaient les membres du clan de Vif, qui chaque fois leur assuraient qu'ils sentaient la présence de la créature, quoique de façon fluctuante. Je partageais cette perception. Toutefois, ces entretiens me firent aussi prendre conscience de l'étendue de mon don pour le Vif, bien plus considérable que celui de Devoir. Je ne possédais pas l'acuité de trame, mais je m'estimais au moins du niveau de l'Est. Niel avait sans doute un peu plus de talent que Devoir et Civil davantage que le ménestrel, mais pas autant que moi. Je trouvais singulier de découvrir que le Vif pût se présenter comme une aptitude plus ou moins affirmée selon les individus. J'y avais toujours vu un sens qu'on possédait ou qu'on ne possédait pas. Je m'apercevais qu'il s'agissait d'un don semblable à celui de la musique ou du jardinage et qu'il variait considérablement de l'un à l'autre, à l'instar de l'art. Peut-être fallait-il mettre sur le compte de l'envergure prodigieuse chez lui de cette dernière magie le fait que l'our demeurait inébranlablement lié au dragon. Le regard vide, toujours en train de fredonner tout bas, le petit homme paraissait devenu complètement idiot. Parfois, il s'interrompait pour exécuter de brefs gestes des mains. Ni l'air qu'il chantonnait, ni ses mouvements ne m'évoquaient rien. Une fois, lors d'une pause après un changement d'équipe sur le chantier, je m'assis près de lui. Je posai une main hésitante sur son épaule et me mis en quête de mon art. J'espérais que le puissant brasier qui brûlait toujours en lui rallumerait mon talent, mais il ne se passa rien. Sinon, au bout d'un moment, il me repoussa d'un haussement d'épaule comme un cheval chasse une mouche d'un frémissement de sa robe. Il perdait même l'appétit, ce qui m'inquiétait plus que tout. Galen, mon premier professeur d'art, mais aussi Vérité, m'avait averti du danger d'une trop grande absorption dans cette magie. C'était toujours le premier obstacle à franchir pour les nouveaux initiés, et beaucoup y laissaient leur vie. On trouvait dans les manuscrits pédagogiques De nombreux récits où des étudiants prometteurs se laissaient entraîner par le courant de l'art et perdaient tout contact avec notre monde, abîmés dans l'extase unique que procure la magie. Ravis, ces malheureux finissaient par se désintéresser de leur alimentation, de l'échange avec leurs semblables, et cessaient de prendre soin d'eux-mêmes. On décrivait des artiseurs parvenus à ce stade comme de grands nourrissons radotants, et l'ours paraissait sur le point d'entamer ce déclin. J'avais toujours supposé que le péril résidait dans la fascination exercée par l'art proprement dit, car j'avais souvent ressenti personnellement cette attraction. Toutefois, si Imbre et Devoir ne se trompaient pas, l'ours ne cédait pas à la séduction de la magie, mais à celle d'un autre esprit, plus puissant que le sien. Après plusieurs vaines tentatives pour engager une conversation, qui ne me valurent que des réactions des plus sommaires, je m'attirai finalement ces mots agacés.
« Va-t'en, ce n'est pas poli d'embêter les gens quand ils sont occupés !»
Et il se remit à se balancer, d'avant en arrière, le regard vide. Je ne percevais toujours pas le plus petit frémissement d'art en moi. J'en éprouvais une frustration d'autant plus grande que Devoir avait réussi à joindre Orti. Par deux fois, il l'avait contacté pour essayer de la convaincre de son identité et de la réalité de l'aide dont il avait besoin. La première, elle avait dressé brutalement ses remparts contre son intrusion, en disant qu'elle n'avait pas de temps à perdre avec des histoires farfelues, et qu'elle ne voyait pas pourquoi un prince chercherait à lui parler en rêve. La deuxième, sans doute piquée par la curiosité, elle s'était montrée plus réceptive, et avait même tenté, sans guère de succès, de détourner l'ours de son obsession, plus inquiète, je pense, de l'état du petit homme que désireuse de plaire au prince. Devoir l'avait suivi lors de l'opération, mais n'avait pas compris grand-chose à l'image qu'elle avait employée. Selon ses explications, le simple d'esprit avait été attiré en un lieu où sa petite chanson jouait un rôle essentiel, dans une pièce de musique de vaste envergure, et rien ne pouvait l'en distraire. Analogie qui posait plus de questions qu'elle n'en résolvait. Quant à transmettre les messages du prince à la reine, Orti avait déclaré qu'elle toucherait un mot de ses « rêves insolites » à Ketriken, si par hasard elle se trouvait seule avec sa majesté, mais qu'elle refusait de risquer de se ridiculiser devant les dames de la cour. Cela lui était arrivé déjà plusieurs fois, et elle ne souhaitait pas prêter à rire davantage. Les remords m'avaient assailli. Si j'avais accepté dès le début qu'on lui révèle ses origines et qu'on la reçoive à Castelserre, elle aurait grandi au milieu de dames et de seigneurs et n'aurait pas eu honte de ses manières de paysanne. Ketriken lui faisait-elle donner des cours de maintien et suivre des études afin qu'elle pût endosser un jour la fonction d'héritière en second du trône? Je mourais d'envie de pouvoir communiquer avec ma fille, de savoir ce qu'on lui avait appris sur sa naissance et les droits et devoirs qui s'y rattachaient, et de lui expliquer moi-même les raisons de l'enfance qu'elle avait connue. Mais mon art absent me contraignait au silence, et je ne pouvais qu'implorer chaque soir le prince de peser mûrement et avec circonspection ce qu'il lui disait. Nous continuions de creuser tous les jours. Le travail était éreintant, les repas frugaux et monotones. Un vent glacial se levait la nuit et nous attendions avec impatience le retour des deux hommes avec la toile. Mais ils ne revenaient pas. Imbre leur accorda une journée de délai, puis deux. Les délégués du Hedgurd affirmaient apercevoir l'homme noir qui rôdait autour de notre camp dans l'obscurité, mais leurs offrandes restaient toujours intactes, et la neige, soufflée par la bise nocturne, effaçait les traces qu'il aurait pu laisser. Un soir, lors d'un de nos entretiens, le fou m'apprit qu'il lui avait semblé sentir sa présence à plusieurs reprises, et il avait l'impression qu'on nous observait. J'avais moi aussi éprouvé ce sentiment inquiétant, mais sans jamais parvenir à repérer l'espion. Tram devait partager cette perception, car il avait appelé par deux fois Risk, occupé à chercher de la nourriture sur le littoral, pour lui demander de survoler le bivouac. Il m'avait dit qu'elle n'avait rien vu d'anormal, seulement de la neige, de la glace et quelques affleurements rocheux. Pendant les brèves heures où nous n'étions pas en train de creuser, de manger ou de dormir, Tram prenait du temps pour m'instruire à l'usage du vif, Il m'avait déclaré sans aucune cruauté se féliciter que je n'eusse pas de compagnon, car cela me permettait de me concentrer sur la magie sans la réduire à un animal particulier. Il avait ajouté qu'en l'absence de lien, l'est aussi paraissait apprendre plus efficacement. Ce dont j'avais conclu que l'apprentissage de l'enfant se poursuivait parallèlement au mien. En ma compagnie, Tram s'appliquait à me faire remarquer que le vif reliait toutes les créatures vivantes, et pas uniquement celles du lignage. À titre d'exemple, il déployait son vif pour en envelopper lourd afin de mieux sentir ses besoins et ses émotions, sans que le petit homme en eût conscience. C'était une discipline difficile à maîtriser, car elle exigeait de faire abstraction de ses désirs et intérêts personnels pour n'accorder d'attention qu'à ceux du sujet. Regardez, une mère avec son nourrisson, chez l'homme comme chez l'animal. Vous verrez cette technique employée au niveau le plus simple et le plus instinctif. Si l'on veut bien se donner la peine d'y travailler, on peut étendre cette perception à n'importe qui, et le résultat en vaut la peine, car elle donne accès à une intelligence de l'autre qui rend quasiment impossible toute haine. Quand on comprend quelqu'un, il est rare qu'on puisse le haïr. Je doutais de parvenir un jour à un tel degré de compassion, mais je m'y exerçais. Un soir, alors que je partageais le repas de Devoir et d'Imbre sous leur tente, je tentais de déployer mon vif autour du vieux conseiller. Je me détachais de ma faim, des douleurs de mes épaules et de l'angoisse que me causait la disparition de mon art pour centrer mon attention sur lui. Je le vis alors avec autant de détails qu'une proie. J'étudiais sa posture, son dos raide, comme s'il était trop inflexible pour se laisser aller à se voûter. Ses mains, dont il n'enlevait pas les gants pour manger la bouillie blanchâtre qui nous tenait lieu de dîner. Son visage, qui formait une composition de contraste avec son nez et ses joues rouges opposées à son front blême de froid. Tout à coup, comme si je distinguais son ombre pour la première fois, je discernais une solitude qui l'escortait partout depuis ses plus jeunes années. Je sentis le poids de ses années et l'étrangeté d'un destin qui l'envoyait sur ses vieux jours, campé sur un glacier, en compagnie d'un jeune garçon qu'il voulait couronner roi.
« Qu'y a-t-il ? »
fit-il soudain d'un ton sec, et je sursautai. Je le dévisageais sans m'en rendre compte. Je me creusai rapidement la cervelle et répondis « Je songeais seulement à toutes les occasions où je me suis trouvé assis en face de vous, et je me demandais si je vous avais jamais réellement vu. » Devant ses yeux agrandis, on eût pu croire que cette perspective l'effrayait. Puis, il fronça les sourcils.
« Et moi qui espérais que tu avais une idée utile à proposer. Eh bien, voici à quoi je réfléchissais, moi. Crible et Est auraient déjà dû revenir, avec les vivres et le matériel. Aujourd'hui, j'ai demandé à Tram si son oiseau pouvait les rechercher. Lui faire comprendre que nous désirions des nouvelles de deux humains précis n'irait pas sans difficulté, m'a-t-il répondu. Autant exiger de l'un de nous de reconnaître deux mouettes précises parmi d'autres. » Il lui a donc donné pour instruction de repérer deux hommes avec un traîneau. Mais il dit qu'elle n'a rien vu.
Il secoua la tête.
« Je crains le pire. Il faut envoyer quelqu'un, non seulement pour retrouver Crible et Est, mais aussi pour rapporter les fournitures dont nous avons besoin. Longuemèche m'a averti tout à l'heure qu'il nous restait des vivres pour 4 jours, 5 s'il réduit encore les rations. »
L'air là, il frotta ses mains gantées l'une contre l'autre.
Je n'avais pas prévu qu'il nous faudrait si longtemps pour exhumer le dragon. Tous les renseignements dont nous disposions le décrivaient proche de la surface et encore visible il y a quelques années à peine. Pourtant, nous avons beau creuser, rien n'apparaît.
« Il est là, » déclara le prince d'un ton catégorique. « Et chaque jour, nous nous rapprochons de lui. » Imbre poussa un grognement dédaigneux.
« Si j'effectuais chaque jour un pas vers le sud, je me rapprocherais de Castelserre, mais personne ne pourrait me dire combien de temps il me faudrait pour arriver à destination. »
Il se leva en gémissant. À l'évidence, rester assis par terre sur le sol gelé, malgré plusieurs épaisseurs de couverture, n'était pas la position la plus confortable pour lui. Il fit lentement le tour de la tente, exigu, en étirant avec précaution ses bras et ses jambes.
« Fitz !» Tu partiras demain voir ce qui est arrivé à Criblé Est, et je veux que tu emmènes Lourd et le Fou. »
Lourd et le Fou? Pourquoi?
Pour lui, la réponse allait de soi.
Qui d'autre puis-je distraire du travail d'excavation? En outre, loin du dragon, Lourd retrouvera peut-être ses esprits. Si c'est le cas, laisse-le en compagnie de Perdreau et Rossé sur la grève avec les réserves, et demande-lui de nous artiser ce que vous aurez découvert.
Mais pourquoi le Fou?
Parce qu'il faut deux hommes pour tirer le traîneau une fois chargé, et je ne pense pas que Lourd te sera très utile de ce point de vue. À mon avis, tu devras même l'installer dessus pour l'emmener d'ici. Et comme tu fais partie des rares personnes qui savent le prendre, tu dois être de l'expédition. Fitz, je sais que cette mission ne te sourit pas, mais à qui d'autre puis-je la confier?
Je penchai la tête. Vous n'essayez donc pas seulement de nous éloigner, le Fou et moi, du chantier, avant l'exhumation du dragon? Il poussa un soupir.
Si je t'envoyais sans le Fou, tu demanderais, si je ne cherche pas, à vous séparer. Et si j'envoyais le Fou sans toi, tu poserais sans doute la même question. Certes, je pourrais charger Tram d'emmener Lourd et un autre homme dans cette expédition, mais il ne comprend pas l'art ni le talent qui manifeste Lourd. En outre, s'il est arrivé malheur à Criblé et Est, ma foi, je te juge plus apte à faire face à une menace que...
Il leva soudain les bras au ciel et dit d'un ton résigné.
Agis comme tu l'entends, Fitz. De toute manière, tu n'en feras qu'à ta tête, et le Fou ne te suivra qu'à ta requête. Je n'ai donc aucun moyen de l'obliger à t'accompagner. La décision te revient donc.
J'étais un peu embarrassé. Lui avais-je prêté des arrière-pensées qui n'existaient pas? J'irai. Et je demanderai au Fou de venir avec moi. En toute franchise, ça me changera du travail de terrassier. Préparer une liste de ce que nous devrons rapporter. À part moi, je décidai de ramasser tout le bois flotté que je trouverais sur la plage et de l'ajouter au traîneau. Peu importait le surcroît de poids, une belle flambée ne ferait pas de mal à Imbre, même si elle ne durait qu'une soirée.
« Dans ce cas, tiens-toi prêt à partir à l'aube, » répondit le vieil homme.
Le Fou ne manifesta pas autant d'enthousiasme que moi à la perspective de quitter le chantier.
« Mais s'ils exhument le dragon en notre absence, si je ne suis pas là pour le défendre... »
Les envoyés du Edgurd et le clan de Vif s'opposent autant que toi à son exécution. Tu ne crois pas qu'ils suffiront à le protéger? Nous étions couchés ensemble, dos à dos, pour profiter de notre chaleur mutuelle, comme bien des années auparavant au royaume des montagnes. À vrai dire, je n'y gagnais guère, car la peau du Fou donnait plutôt une impression de fraîcheur. J'avais un peu la sensation de dormir allongé contre un lézard. Néanmoins, s'il n'émettait qu'une tiédeur relative, j'éprouvais au contact de son corps un sentiment réconfortant d'amitié partagée, tel que je n'en avais plus connu depuis la mort d'Œil de Nuit. Il est rassurant de sentir un ami derrière soi, même s'il dort à poing fermé.
Je ne sais pas. Je me trouve trop près du point où mes visions s'arrêtent.
Il s'interrompit comme s'il attendait une question de ma part. Mais je ne tenais pas à discuter du sujet. Il reprit d'un ton circonspect.
« Estimes-tu ce trajet avisé ?»
Je changeai de position et mes muscles douloureux protestèrent. Je n'y ai guère réfléchi. J'ai obéi si longtemps aux instructions d'Imbre que j'ai accepté sans poser de questions. Mais j'aimerais savoir ce que deviennent Criblé et Est, et je voudrais aussi voir si Lourd retrouve son état normal, loin de l'influence du dragon, et puis... Nouveau changement de position et nouveau gémissement, j'apprécierais de passer quelques jours sans manier la pelle. Il se tut. Moi aussi, intrigué par ce silence. Pourquoi mettait-il tellement de temps à se décider? J'éclatai de rire soudain.
Ah, c'est vrai, j'oubliais, je suis le catalyseur, celui qui modifie la réalité, et cette petite expédition constituerait une modification de la voie que tu penses devoir suivre. Tu ignores donc si tu dois t'y opposer ou non.
Il resta si longtemps sans répondre que je le crus endormi. La tiédeur de la journée, la plus chaude depuis notre arrivée, avait amolli la glace en surface et nous avions pataugé au fond de la tranchée du matin jusqu'au soir. J'écoutais le bruit du vent en espérant que le froid nocturne durcirait la neige et empêcherait les rafales de la pousser dans l'excavation.
Je commençais à somnoler quand le fou déclara.
« Tu me fais peur, parfois, quand tu exprimes mes propres pensées. Très bien. Nous partirons demain. Nous prendrons ma tente pour nous abriter, d'accord ?»«
Ce sera parfait, » dis-je avant de m'endormir.
Et nous nous mîmes donc en route au matin. Longue Mèche nous fournit 3 jours de vivres, ce qui, selon lui, devait nous suffire amplement pour regagner la plage. Nous démontâmes la magnifique tente du fou et la fixâmes sur le traîneau pendant que le commandant de la garde nous donnait d'ultimes consignes. Si nous parvenions à destination sans avoir croisé les 2 absents, nous devions avertir les soldats restés sur la grève qu'on avait observé l'homme noir aux alentours de notre camp. Si nous trouvions des preuves qu'il était arrivé malheur à Crible et Est, nous avions ordre de revenir aussitôt les signaler. Enfin, si nous rencontrions les 2 hommes en train de retourner au chantier, nous n'aurions qu'à rebrousser chemin et rentrer avec eux. La mouette de trame assurerait le suivi de notre progression par des survols réguliers. J'acquiesçais de la tête en sanglant sur le traîneau la tente du fou et du matériel de couchage pour 3. Comme prévu, il se révéla impossible de convaincre l'ours de marcher, et il fallut le charger sur le véhicule. Il ne résistait pas, mais ne coopérait nullement. Au bout de quelques pas, il s'égarait dans ses pensées et s'arrêtait. Devoir et Imbre vinrent nous souhaiter bon voyage, et le prince ajusta le bonnet de l'ours sur ses oreilles, tout en s'efforçant de l'artiser pour le tirer de sa léthargie. Je ne percevais rien, mais je le savais à son expression intense. Le petit homme tourna lentement la tête vers lui.
« Je vais bien !»
fit-il d'une voix pâteuse, puis son regard se perdit au loin de nouveau. « Prenez soin de lui, Tom, » me dit Devoir d'un ton bourru. « Je vous le promets, monseigneur. Nous tâcherons de faire vite. » Là-dessus, lourd assis sur le grand traîneau et emmailloté comme dans un cocon, je pris les guides et commençai à tirer. Les patins enduits d'une épaisse couche de suif glissèrent aisément sur la neige, presque trop, car nous nous étions engagés dans une pente, si bien que je dus faire halte et baisser le sabot pour empêcher le traîneau de prendre de la vitesse et de me renverser. Le fou marchait en tête, son haut paquetage sur le dos, et il sondait le sol pour s'assurer de sa solidité. Bien que nous suivions les jalons dont Péotre avait piqueté notre chemin. L'air était tiède et la neige collante alourdissait mes bottes. Comme nous traversions un plateau, le traîneau commença d'accrocher. Il enfonçait dans les traces qu'il avait laissées à l'allée et les cristaux amollis et appesantis d'humidité s'amoncelaient peu à peu sur les patins. Néanmoins, tirer lourd par cette belle journée restait moins pénible que pelleter de la glace au fond d'une fosse. L'épée voyante que le fou m'avait donnée tapait sur ma cuisse au rythme de mes pas, car Longue Mèche avait exigé que l'un de nous au moins fût armé. Nous progressions beaucoup plus vite que lors de notre trajet d'origine. Les piquets de Péotre nous indiquaient clairement la route à suivre, et elle descendait en pente douce sur toute sa longueur. Le fredonnement de l'ours, le crissement aigu des patins et celui, plus sourd, de nos bottes sur la croûte de neige molle nous accompagnaient, mais d'autres sons s'y mêlaient parfois. La chaleur réveillait le glacier, et nous entendions le fracas lointain d'un pan de glace qui s'écroulait et dont le tonnerre se poursuivait un moment. Nous percevions ensuite des craquements et des bruits de chute, mais moins fort et toujours à distance. Le fou se mit à siffler, et je me réjouis en voyant l'ours se redresser pour écouter la mélodie. Il continua de chantonner tout bas, mais je me lançai dans des observations sur le paysage, malgré sa blancheur uniforme, et parvins de temps en temps à obtenir une réaction de sa part. J'en tirai une joie immodérée, accompagnée toutefois d'une certaine perplexité. L'éloignement n'entre pas en ligne de compte dans la magie de l'art. Or, plus nous nous écartions du dragon enfoui, plus lourd paraissait recouvrer sa conscience du monde. Je ne comprenais pas la raison de ce phénomène et regrettais de ne pouvoir en discuter avec Devoir et Imbre. À plusieurs reprises, je tentais d'artiser, mais en vain. Un cul-de-jatte essayant de sauter un obstacle aurait eu plus de succès que moi. Mon art avait complètement disparu. Je préférais chasser cette préoccupation de mon esprit, car je sentais un abîme glacé se creuser au fond de moi, à force d'y songer. Pour l'instant, je ne pouvais rien y faire. Le temps, tour à tour froid et attiédi des journées, et le vent nocturne avaient effacé à demi les traces de notre passage précédent.
Je fis quelques tentatives pour les déchiffrer, dans l'espoir de distinguer celles de Crible et de Est, mais sans résultat. Devant nous, en contrebas, les terres enneigées de l'île s'étendaient largement. Je n'y voyais rien bouger. En tout cas, rien de la taille de deux hommes accompagnés d'un traîneau. Peut-être s'étaient-ils attardés sur la grève, ou bien un incident les avait-ils obligés à repousser leur retour. Quoi qu'il en fût, j'évitais autant que possible de mettre en parallèle leur absence avec la perte de mon art et les apparitions de l'homme noir. Je manquais trop de faits établis pour en tirer aucune conclusion. Et détournais mes pensées en m'efforçant de savourer la pureté de l'air. À un moment, j'entendis le cri aigu d'un oiseau, et levant les yeux, je vis une mouette décrire un large cercle au-dessus de nous. Je saluai Risque de la main en me demandant si elle transmettrait ce signe de reconnaissance à Trame. Nous arrivâmes à l'emplacement de notre dernier bivouac, mais comme il nous restait encore plusieurs heures de jour et d'abondantes réserves d'énergie, nous poursuivîmes notre chemin. Le soir venu, nous dressâmes la tente sur la piste, derrière le traîneau. L'ours continua de fredonner par intermittence, mais quand je me mis à la cuisine, il exprima un certain intérêt pour le repas que je préparais. Intérêt qui se mua en affliction devant sa frugalité. Nous nous trouvâmes un peu plus serrés à trois qu'à deux dans notre abri exigu, mais nous nous réchauffâmes aussi plus vite. Le fou nous régala de petits contes pour enfants jusqu'au moment où nous tombâmes de sommeil. À chaque histoire, l'ours fredonnait un peu moins et posait davantage de questions. Naguère, ces constantes interruptions m'auraient agacé. Désormais, j'y puisais du soulagement. « Veux-tu souhaiter bonne nuit à Imbre et de voir pour moi ?» lui demandai-je, alors qu'il se pelotonnait sous ses couvertures.
« Fais-le toi-même »
répondit-il grognon. « Je ne peux pas. J'ai mangé quelque chose de mauvais et je ne les trouve plus dans ma tête. » Il se redressa sur un coude et me regarda.
« Ah oui, je me souviens. Tu es parti. C'est dommage. »
Il se tut un moment.
« Ils disent bonne nuit, et merci de les avoir prévenus, et peut-être aussi qu'il faudra que je reste sur la plage, mais ils décideront plus tard. »
Il poussa un grand soupir satisfait et se rallongea. Je me redressai à mon tour. « Lourd, tu ne tousses plus, et ça ne siffle plus quand tu respires. »
« Non. »
Il se retourna en me donnant un coup de pied au passage. J'allais protester quand il reprit.
Il m'a dit « Guéris-toi. Assez de bêtises, guéris-toi et cesse de m'ennuyer. » Alors j'ai obéi.
« Qui t'a parlé ainsi ?» demandai-je, soudain saisi de remords. « Pourquoi n'avions-nous pas, Imbre, Devoir et moi, songé à essayer de lui rendre la santé ? L'idée paraissait pourtant évidente, mais nous n'avions rien tenté, et j'en éprouvais de la honte.
«
fit-il en réfléchissant.
« Son nom, c'est toute une histoire, trop longue à raconter. J'ai envie de dormir, arrête de me déranger. »
Là-dessus, il sombra dans un sommeil profond. Je m'interrogeais. Glacefeu portait-il un autre nom, un nom de dragon ? Je m'éveillai au milieu de la nuit. J'avais cru entendre marcher à pas prudents près de notre tente. À quatre pattes, je gagnai l'ouverture puis sortis à contre-cœur dans le froid limpide et fis le tour de notre abri. Mais je ne vis ni homme, ni bête. Au matin, je parcourus le même circuit à plus grande distance pendant que le fou tâchait de faire chauffer de l'eau pour la tisane, puis je rapportai mes observations à mes compagnons. Nous avons eu de la visite cette nuit. Quelqu'un a effectué un grand cercle autour de notre camp, puis il s'est allongé un moment dans la neige là-bas, avant de repartir dans la direction d'où il est venu. À votre avis, dois-je suivre ses traces ?
Pourquoi faire ?
Demanda Lourd alors que le fou déclarait d'un ton pensif. Je pense qu'il faut informer Sire Imbre et le prince Devoir.
Moi aussi.
Je me tournai vers le petit homme. Il poussa un long soupir, puis son regard se perdit au loin. Peu après, il annonça.
Ils répondent. « Allez jusqu'à la plage. Devoir pense qu'il a laissé des bonbons au sucre d'érable dans un sac. Ils disent qu'il faut se dépêcher, revenir avec les affaires et ordonner aux gardes de nous accompagner. Ne cherchez pas à suivre les empreintes pour l'instant. »«
Très bien, nous ferons ainsi. » Comme j'aurais voulu pouvoir entendre moi-même les cogitations d'Imbre. Nous démontâmes la tente, l'attachâmes sur le traîneau, et, comme si cela allait de soi, l'ours s'installa à côté d'elle. Après réflexion, j'estimais que c'était encore le meilleur moyen de nous déplacer avec lui. Je préférais devoir le haler qu'accorder mon pas à son allure d'escargot. Comme la veille, le fou passa en tête pour sonder le terrain pendant que je tirais ma charge. Il faisait beau et une brise tiède soufflait sur le paysage enneigé. Si nous maintenions notre cadence, nous parviendrions sans doute à destination dans l'après-midi du lendemain. L'ours rompit tout à coup le silence.
« Horty dit que tu lui manques. Elle veut savoir si tu es fâché contre elle. »«
Si je suis... Quand ? Quand a-t-elle dit ça ?»«
La nuit. »
Il agita vaguement la main.
« Elle raconte que tu as disparu et que tu n'es plus revenu. »
« Mais je ne pouvais plus la joindre à cause de ce que j'ai mangé. »«
Je sais. »
Mes explications ne l'intéressaient visiblement pas.
« Je lui ai répondu que quelque chose t'empêchait de lui parler. Elle a eu l'air soulagée. »«
Soulagée ?»«
Elle te croyait mort ou je ne sais pas quoi. Elle a une nouvelle amie. On s'arrête bientôt pour manger. »
« Pas avant ce soir. Nos rations sont limitées. Il faut les ménager. L'ours, a-t-elle... » Le fou poussa un cri de surprise qui m'interrompit. Son bâton venait de s'enfoncer profondément dans la neige. Il le ressortit, se déplaça de deux pas sur la gauche et recommença l'opération avec le même résultat. « Ne bouge pas !» ordonnai-je à l'ours. Je pris un des bâtons de réserve et rejoignis le fou qui observait le sol avec perplexité. « De la neige molle ?» demandai-je. Il secoua la tête.
On dirait plutôt une croûte superficielle, sans rien en dessous. Si je n'avais pas bien tenu ma canne, elle serait tombée dans le vide.
Ne prenons aucun risque. Je saisis sa manche. L'ours, ne descends pas du traîneau ! Criai-je.
J'ai faim !
Tu trouveras les vivres dans le sac derrière toi. Mange un morceau et reste où tu es. Je ne voyais pas de meilleur moyen de l'occuper. Je tirai le fou par le bras, nous fîmes trois pas sur la droite, et je plongeai mon bâton dans la neige. Comme il me l'avait décrit, je sentis d'abord la croûte résister, puis elle céda, et la tige de bois s'enfonça dans le vide.
Pourtant, les jalons de Péotre se poursuivent en ligne droite au-delà de ce pont de neige, remarqua le fou.
Les déplacés n'auraient guère présenté de difficultés, répondis-je.
Oui, mais pour cela... Il aurait fallu franchir la crevasse.
La croûte doit être plus résistante la nuit, enfin je pense. Avions-nous affaire à un danger naturel, inhérent au glacier, ou bien nous avait-on attiré dans un piège? Je n'en savais rien. Retournons au traîneau, proposai-je.
Excellente idée, fit le fou.
Tout à coup, alors que nous nous écartions de l'abîme invisible, le sol céda sous nos pas, et nous nous enfonçâmes, moi jusqu'aux genoux, le fou jusqu'aux hanches, avec un hurlement de terreur. Puis, constatant que nous ne descendions pas davantage, je partis d'un éclat de rire à la mesure de ma frayeur. Nous étions simplement tombés dans un creux de neige molle. « Agrippe-toi à moi, » dis-je, en m'efforçant de regagner la glace ferme. Il saisit la main que je lui tendais, et comme il avançait tant bien que mal vers moi dans la masse froide, la seconde croûte de neige durcie sur laquelle nous nous tenions se rompit et nous précipita dans le vide. J'aperçus fugitivement le visage de l'ours déformé par l'effroi, puis son cri d'épouvante se perdit dans la cataracte de neige et de glace qui s'abîmait avec nous. Sans lâcher la main du fou, je battis des bras et des jambes pour trouver quelque part dans l'univers un point d'appui, un semblant de solidité, mais en vain. Tout n'était que blancheur, froid et humidité dans l'avalanche terrifiante qui nous emportait sans paraître jamais devoir finir. La neige paraît légère et duveteuse quand on la voit tomber du ciel, mais quand elle envahit l'air jusqu'à lui donner la consistance du gruau, il devient impossible de respirer. Elle s'infiltrait dans mes vêtements comme une créature sans forme et avide de ma chaleur, et elle s'épaississait implacablement autour de moi. Non sans mal, je repliai mon bras libre et y enfouis ma figure, sans amélioration notable. Notre chute, ou plutôt notre enfoncement se poursuivait, et je savais que la neige s'amoncelait sur nos têtes. Néanmoins, je ne lâchais pas le fou, qui ne se protégeait pas le visage de sa main libre, car je la sentais accrochée comme une serre à l'épaule de mon manteau. Il ne restait plus d'air pour remplir nos poumons. Puis, comme au sortir d'un entonnoir, Notre glissade verticale s'accéléra soudain et nous pûmes bouger plus aisément. Je battis des pieds et du bras en vagues semblant de mouvements natatoires et je sentis le fou s'agiter pareillement à mes côtés. Notre dégringolade s'arrêta en douceur et nous nous retrouvâmes dans des ténèbres froides et humides. Terrifié, je me mis à me débattre, obéissant aux réflexes de l'organisme quand il perçoit l'approche de la mort, et par miracle, et contre toute vraisemblance, j'émergeais de la neige. J'aspirais une grande goulée d'air presque exempt de corps étranger et entrepris de me dégager en tirant le fou derrière moi. Il ne réagissait plus, et je craignais qu'il n'eût déjà succombé à l'asphyxie. Dans l'obscurité absolue, je ne percevais que le froid et la chute continue de la neige mêlée de glace. Enfonçant jusqu'aux hanches, je traînais le fou à ma suite, et tout à coup, je m'extirpais de la masse spongieuse. Elle ne m'arrivait plus qu'aux chevilles, et je m'en écartais, à pas chancelants. J'entendis le fou prendre une inspiration sifflante. Je respirais, moi aussi, une fois, deux fois. De minuscules cristaux de glace emplissaient encore l'air, mais notre situation s'améliorait notablement malgré tout. Nous étions dans le noir complet. Je secouais la tête pour faire tomber la neige de mes cheveux et j'en retirais de pleines poignées de mon col. J'avais perdu mon chapeau et une botte. Aucune lueur ne nous parvenait et nous n'entendions que les crissements indescriptibles de la glace en train de se tasser et le son rauque de notre respiration. Où sommes-nous ? Fis-je, la gorge serrée, et ma petite voix humaine m'évoqua le couinement étouffé d'une souris au fond d'un coffre plein de grains. Le fou toussa. En bas. Nous ne nous tenions plus par la main, mais nous restions assez près l'un de l'autre pour nous frôler. Il s'affairait accroupi à mes pieds, et soudain, une pâle lumière verdâtre naquit dans ses paumes. Je ne vis d'abord que son éclat, puis je clignai les yeux et constatai qu'elle provenait d'une petite boîte entre ses mains. « Ça ne durera pas longtemps, » me dit-il, le visage cadavérique dans la clarté spectrale. « Un jour, tout au plus. » Il s'agit d'un objet magique des anciens, parmi les plus rares et les plus onéreux. Je n'ai pas dépensé toute ma fortune en jeux de hasard et en alcool. Ce que tu vois là en représente une bonne part. « Les dieux en soient loués !» répondis-je avec ferveur. Une pensée traversa fugitivement mon esprit. Tram avait parlé d'une seule prière véritable. Venais-je de la prononcer ? Bien qu'elle suffît à peine à éclairer nos visages, la lumière me procurait un réconfort immense. Le fou et moi échangeâmes un regard. Il avait conservé son chapeau et une seule sangle retenait son paquetage à son épaule, l'autre avait cassé. Je restais stupéfait qu'il eût réussi à le garder alors que j'avais perdu ma ceinture et mon épée. Tandis que je l'observais, il referma son petit sac à dos, puis nous époustâmes la neige de nos vêtements avant de parcourir des yeux notre nouvel environnement. Nous n'en vîmes rien. Trop terne, l'éclat magique ne nous montrait que l'éboulement dont nous nous étions extraits et nous-mêmes. Nous nous trouvions dans une cavité sous la glace, mais les rayons de la lanterne des anciens n'en atteignaient pas les parois et aucune lumière ne filtrait de la surface. Sans doute l'avalanche qui avait accompagné notre chute avait-elle comblé la crevasse derrière nous. Tout à coup, je m'exclamais. « Lourd ! Oh, Ida, fait qu'il pense à prévenir de voir et Imbre, pourvu qu'il ne quitte pas le traîneau. Mais que va-t-il devenir lorsque la nuit et le froid tomberont ? Lourd ! » À l'idée du petit homme perdu dans un monde de glace, tout seul sur son traîneau, j'avais hurlé son nom. « Chut !» fit sèchement le fou. « S'il t'entend crier, il risque de s'aventurer près du précipice. Garde le silence. Il court moins de danger que nous, et il doit malheureusement l'affronter par ses propres moyens. Il se servira de l'art pour appeler à l'aide, Fitz. Son esprit est lent, mais il fonctionne, et il aura amplement le temps de réfléchir. « Peut-être, » dis-je à regret. J'avais le cœur serré. Pourquoi fallait-il que mon arme fasse défaut précisément maintenant ? Aussitôt, la douleur renaquit en moi de l'absence d'œil de nuit, de son instinct et de sa philosophie de survie. Ma gorge se noua. J'étais seul.
et tu te vautres dans ton malheur. »
La remarque acerbe portait la marque de mon loup, comme s'il l'eût prononcé lui-même.
« Reprends-toi et agis. Tu tiens entre tes mains le sort du fou, et peut-être aussi celui de l'ours. »
Je respirai profondément et levai les yeux. La lueur verte de la petite boîte ne me montra rien, mais cela ne signifiait pas qu'il n'y avait rien à voir. S'il existait une issue, il fallait la trouver. À défaut, nous devrions tenter une ascension à travers la neige amoncelée, au risque de déclencher une nouvelle avalanche. Ce n'était pas plus compliqué que cela. Rester les bras ballants à geindre comme un louveteau égaré ne me mènerait nulle part. J'aidai le fou à se relever. « Viens, nous ne pouvons pas remonter. Allons jeter un coup d'œil aux environs, marcher nous réchauffera. »«
D'accord. »
Je sentis une telle confiance dans sa réponse que j'en eus le cœur fendu. J'aurais aimé disposer d'un de nos bâtons, mais Eda savait où il se trouvait dans la masse de neige. Le fou tint donc son coffret lumineux à bout de bras, et nous nous mîmes en route, les mains tendues devant nous. Rien ne nous arrêta. Si nous restions immobiles et retenions notre souffle, nous entendions de l'eau qui gouttait et la lente respiration des entrailles du glacier. Nos pas crissaient comme sur du sable, et nous ne distinguions rien au-dessus de nous. Nous errions dans une nuit opaque, et seule la fermeté du sol sous nos bottes et nos heurts occasionnels nous rattachaient au monde. Nous ne vîmes même pas la paroi avant de nous cogner contre elle. Nous la parcourûmes un moment des mains sans rien dire. Dans le silence, je m'aperçus à sa respiration hachée que le fou tremblait de tous ses membres. «
Pourquoi ne m'avoir pas prévenu que tu avais froid à ce point ? » fis-je d'un ton que l'inquiétude rendit cassant. Il renifla, puis éclata d'un rire défaillant.
« Parce que tu n'as pas froid, toi ? On n'y peut rien ?
Je ne vois donc pas l'intérêt d'en parler. »
Il prit une nouvelle inspiration grelottante et demanda.
« Est-ce de la glace ou de la roche ?»«
Approche la lumière. » Il obéit, et j'examinai l'obstacle. « Non, je ne parviens pas à en discerner la nature. En tout cas, ce mur nous barre la route. Essayons de le longer. »«
Nous risquons de nous retrouver à notre point de départ ?»«
Peut-être, mais qu'y faire ? Si nous effectuons un tour complet, nous aurons au moins appris qu'il n'y a pas d'issue. Attends une seconde. » Je posai la main à hauteur d'épaule sur la paroi, et de l'autre, cherchai mon poignard à ma ceinture. Naturellement, il avait disparu. Par chance, le fou avait conservé le sien, et non sans un certain sentiment de futilité, je grattai la muraille de la pointe pour y laisser une marque grossière. « Vers la gauche ou la droite ?» demandai-je à mon compagnon. J'ignorais où se trouvait le nord ou le sud.
« Vers la gauche ?»
répondit-il, avec un geste dans cette direction.
« Un instant » fis-je d'un ton brusque, et je déboutonnai mon manteau.
Quand je voulus le lui mettre sur les épaules, il tenta de m'en empêcher.
« Tu vas geler !»
protesta-t-il. « Je suis déjà gelé, mais je perds ma chaleur moins vite que toi. En outre, si tu t'évanouis de froid, ça n'arrangera pas notre situation. Ne t'en fais pas. Si j'en ai besoin, je te préviendrai. » « Pour le moment, couvre-toi. » Il rendit les armes aussitôt, et je mesurai alors combien il devait souffrir de la température. Il laissa tomber son sac et me tendit la lampe des anciens, le temps de fermer le manteau en tremblant violemment. En l'observant, je jugeai qu'il ne devait pas son teint anormal au seul éclat verdâtre de la lumière. Il m'adressa un pâle sourire.
« Il a conservé la chaleur de ton corps. Merci, Fitz. »
« Remercie-toi toi-même. Tu me l'as donné quand je jouais le rôle de ton serviteur. Allons, mettons-nous en route. » Et je pris son sac avant qu'il pût esquisser un mouvement. « Que portes-tu d'autre là-dedans ?»«
Rien de très utile, hélas, je pense. Quelques objets personnels auxquels je tiens particulièrement. Un flacon d'eau de vie dans le fond et une petite réserve de gâteau au miel, me semble-t-il. » Je les avais emportés en cas d'urgence ou comme friandise pour lourd.
Il eut un sourire étranglé.
Mais je n'imaginais pas une pareille situation. Néanmoins, mieux vaut les garder de côté le plus longtemps possible.
Sans doute. Allons-y. Les bras étroitement serrés sur sa poitrine, il ne fit pas un geste pour récupérer le coffret lumineux. Je levai la petite boîte au-dessus de ma tête et entrepris de suivre la paroi noire. À la façon de marcher du fou, je compris que ses pieds commençaient à perdre leur sensibilité et je sentis le découragement menacé de me submerger. Mais le loup en moi s'interposa aussitôt et le refoula. Nous restions vivants et capables de nous déplacer. Il y avait de l'espoir. Nous progressions dans un espace apparemment sans fin. Le temps devenait mouvement, pas qui se succédait dans le noir. Parfois, je fermais mes yeux fatigués par la lueur étrange, mais même ainsi, j'avais l'impression de la voir encore. En une de ces occasions, le fou demanda d'une voix chevrotante.
« Qu'est-ce que c'est ?»
J'ouvris les yeux. Quoi donc ? Des rémanences bleutées dansaient devant moi. Je battis des paupières, mais elles persistèrent.
« Ça, n'est-ce pas de la lumière ? Rabat le couvercle de la boîte, qu'on voit si elle se maintient ou s'il s'agit d'un reflet. »
J'eus du mal à clore le coffret. Le froid rendait mes doigts gourds et je percevais mon pied déboîté comme un bloc douloureux et glacé au bout de ma jambe. Toutefois, j'arrivais à mes fins et un ray à l'éclat bleuâtre demeura dans les ténèbres, à la forme irrégulière et aux limites bizarrement indistinctes. Les yeux plissés, je m'efforçais de lui trouver un aspect familier.
Très curieux, non ? Approchons-nous.
Quitter le mur, fis-je avec une répugnance qui m'étonna moi-même. Nous ignorons à quelle distance elle se situe.
Elle doit bien provenir de quelque part,
répondit le fou. Je respirai profondément. D'accord. Nous nous mîmes en route. La faible illumination ne paraissait pas se renforcer. Le sol devint inégal et, les pieds engourdis, nous trébuchâmes sur ses aspérités. Soudain, au bout de quelques pas, notre perspective changea. Une paroi sur notre gauche nous bouchait la vue et ne nous laissait voir qu'un reflet sur un mur de glace. Quand nous passâmes cette avancée, l'éclat s'élargit et s'approfondit pour former un couloir de glace blanc et bleuté qui semblait nous inviter. L'espoir au cœur, nous accélérâmes l'allure. Nous franchîmes un angle de la salle obscure où nous nous trouvions et une trouée lumineuse s'ouvrit devant nous, dont je distinguais des détails toujours plus nombreux à mesure que nous en approchâmes. L'éclat augmenta peu à peu et après un rétrécissement du passage, nous débouchâmes dans un monde de glace infusé de lumière. L'illumination paraissait dépourvue de source, comme si elle traversait un jeu de fenêtres, de miroirs et de prismes avant de parvenir jusqu'à nous. Nous pénétrâmes dans un étrange dédale de fractures et d'abîmes entre des parois aux luisances pastels. Notre chemin s'élargissait et s'étranglait tour à tour. Parfois, nous avions l'impression de progresser dans une crevasse aux arêtes vives, ouvertes de la veille, et parfois, on eût cru que l'eau en ruisselant avait lentement sculpté les méandres que nous suivions. Quand nous arrivions à une bifurcation, nous choisissions autant que possible la voie la plus large, qui, bien souvent, se réduisait peu après. Je taisais ma crainte au fou. Les lézardes du glacier que nous empruntions ne devaient leur existence qu'au hasard. Rien ne permettait d'espérer que l'une d'elles nous ramènerait à la surface. Quand je remarquais les premiers signes que d'autres nous avaient précédés, je les mis sur le compte d'un espoir déraisonnable. Tout d'abord, du sable apparemment jeté sur les parties glissantes du sol, puis de possibles traces de taille dans les parois. Enfin, une odeur que je captais, celle d'excréments humains frais. À l'instant où je me convainquais que je ne me berçais pas d'illusions, le fou déclara.
« On dirait des marches façonnées devant nous. »
J'acquiesçai de la tête. Il ne faisait aucun doute que nous suivions une pente ascendante, et des degrés bas et profonds apparaissaient dans la glace. Nous en gravîmes une dizaine avant de nous arrêter devant une salle qui s'ouvrait dans la glace sur notre droite. On avait agrandi une fissure naturelle pour former une large fosse où vider les ordures et les pots de chambre. Elle servait aussi de tombe ignominieuse, à en juger par le pied nu, horriblement maigre et blanc, qui pointait au milieu, à côté d'un cadavre étendu face contre terre, dont les côtes saillaient entre les haillons. Sans le froid, l'odeur eût été insupportable. Je murmurai au fou. « Crois-tu avisé de continuer ?»«
Il n'y a pas d'autre chemin ?»
répondit-il d'une voix chevrotante.
Il faut le suivre. »
Mais il ne parvenait pas à détacher les yeux du corps jeté parmi les rebuts. Il tremblait de nouveau. « Tu n'arrives pas à te réchauffer ?» demandai-je. La température me semblait pourtant un peu moins basse dans les couloirs où nous nous trouvions que dans l'obscurité que nous avions quittée. On eût dit qu'ils émettaient eux-mêmes l'éclairage qui nous baignait. Son sourire m'épouvanta. « Je suis mort de peur. » Il ferma les yeux un instant et des larmes perlèrent à ses cils dorés. Puis, il reprit d'un ton plus ferme. « Continuons. » Il passa en tête et je le suivis, l'angoisse au cœur. Celui qui s'occupait des immondices faisait son travail sans soin. Des taches et des éclaboussures maculaient la glace des murs et du sol. Plus nous avancions dans les galeries, plus il devenait évident que la main de l'homme les avait ouvertes, ou tout au moins retaillées. Nous découvrîmes la source de l'éclat bleuté lorsqu'au détour d'un large boyau, nous vîmes un globe pâle fixé à la paroi au-dessus de nos têtes. Plus gros qu'une citrouille, il diffusait de la lumière mais aucune chaleur. Je m'arrêtai pour l'observer. Puis, comme je tendais une main curieuse pour le toucher, le fou me saisit par la manche et retint mon bras en secouant la tête. « Qu'y a-t-il ? » demandai-je tout bas. Il haussa les épaules.
« Je l'ignore. Mais cet objet provient d'elle, j'en suis sûr. Ne t'en approche pas, Fitz. Allons, viens, il faut nous hâter. »
Nous pressâmes donc le pas pendant quelque temps, puis nous arrivâmes au premier cachot.